Oui, les évêques de France se sont réunis du 2 au 8 novembre à Lourdes pour aborder un programme chargé. La conférence se déroulant en même temps que la COP26, elle devait être notamment centrée sur les questions de l'écologie. De fait, une attention particulière a été portée aux pauvres, à leur écoute, à leur sagesse. Et cette attention, cette écoute ont été particulièrement manifestées à l'égard des personnes victimes d'abus sexuels dans l'Église, mises en lumière par le rapport Sauvé. Les évêques français ont donc bousculé leur emploi du temps et ont consacré une grande partie de leurs échanges à la question de la pédocriminalité dans l'Église, se saisissant des recommandations du dit rapport pour nous faire part des résolutions prises par la Conférence des évêques de France. Nous sommes en ligne ce matin avec Laurent Camiade, évêque de Cahors. Bonjour Monseigneur.
Oui, bonjour Isabelle et bonjour aux auditeurs.
Monseigneur, nous avons pu voir des images fortes des évêques réunis à Lourdes dans une attitude de pardon et de repentance. Est-ce que cette démarche était particulièrement attendue par les victimes d'abus sexuels dans l'Église ?
Alors, en tout cas, par celles avec qui nous avons pu dialoguer, celles qui, depuis déjà plusieurs années, travaillent avec la Conférence des évêques ou s'expriment publiquement, c'est sûr que quand on a vu avec le rapport Sauvé le nombre de victimes, on est tellement catastrophé, on pense à celles qui parlent et qui nous disent ces choses, effectivement, qu'elles attendent de nous des signes forts et une reconnaissance surtout de la gravité de ce qu'elles ont vécu et de notre responsabilité. On pense aussi à toutes les autres qui se taisent et qui ne savent pas forcément ce qu'elles veulent et comment on peut intervenir en leur faveur, quoi, de quelque manière que ce soit. Mais oui, effectivement, ça faisait partie d'une attente forte, oui, tout à fait.
Et est-ce qu'on pourrait dire qu'au-delà des paroles, finalement, c'était des actes très concrets qui étaient posés à ce moment-là ?
Ah oui, bien sûr, bien évidemment, c'était des actes, c'était des signes. Et les signes symboliques sont extrêmement importants dans ce domaine. Parfois, ils ont été dévoyés au détriment des personnes. On a utilisé des signes symboliques pour les manipuler, pour les blesser. Et là, on reconnaît cette réalité. Et je pense que c'est quelque chose de très fort et qui peut aider à des personnes à se reconstruire. En tout cas, on l'a fait dans cette optique, avec aussi une démarche pour nous profondément spirituelle qui était de demander pardon au Seigneur de la gravité des crimes commis et de la gravité des attitudes soit insuffisantes, soit même gravement déficientes de la part de notre institution.
En mars dernier, Monseigneur, la Conférence des évêques de France, lors de sa précédente assemblée plénière, avait pris un certain nombre de résolutions, notamment sur les questions de responsabilité. Un pas décisif a été franchi cette semaine de Toussaint à Lourdes, puisque la responsabilité institutionnelle de l'Église et la dimension systémique des violences qu'ont subies les nombreuses personnes victimes ont été reconnues. Qu'est-ce que cette double reconnaissance signifie et entraîne, Monseigneur Laurent Camiade ?
Je crois que c'est quelque chose que effectivement beaucoup de victimes attendaient, que beaucoup de personnes aussi de chrétiens ressentaient comme une nécessité. On a pu l'entendre ces temps-ci. Et en fait, nous n'étions pas allés jusque-là lors de l'assemblée de mars dernier, qui suivait toutes plusieurs jours aussi de réflexion, une assemblée extraordinaire en février. Peut-être parce que nous n'avions pas mesuré l'ampleur du drame et nous pensions encore qu'il s'agissait de phénomènes marginaux dus à des dérapages un peu individuels. Et nous sommes obligés, après le rapport Sauvé, le rapport de la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église, de constater qu'il y a quelque chose de systémique, non pas que l'Église ait systématiquement fait la promotion de la pédophilie, de la pédocriminalité, de ces actes d'abus, pas du tout, mais au contraire, ils ont toujours été condamnés, on a déjà des règles très sévères pour les punir depuis longtemps, mais on n'a pas appliqué, nous avons agi en contradiction avec nos propres termes, avec notre propre idéal, et ça a été fait d'une manière qui a dépassé des volontés individuelles parce que plusieurs causes mises ensemble qui n'avaient pas forcément pour objectif de commettre des abus, en fait, ont favorisé ce terrain, cette réalité. Alors le rapport Sauvé emploie le terme phénomène systémique. Oui. Je trouve que le mot est juste, c'est-à-dire quelque chose qui advient comme un phénomène que nous n'avions, que personne n'avait programmé, mais évidemment les personnalités les plus perverses se sont appuyées sur ce phénomène et ont su l'utiliser d'une manière terrible.
Cette reconnaissance, pardon, de la responsabilité de l'Église de France ainsi actée, un certain nombre de résolutions ont été prises, et notamment pour répondre à ce devoir de justice et de réparation. Commençons peut-être par celle qui vous concerne directement, puisque en tant que président de la commission doctrinale de la Conférence des évêques de France, vous allez vous saisir des points doctrinaux soulevés par la CIAS, hein, cette commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église. Quels sont en fait les sujets que vous allez travailler, Monseigneur Camian?
Alors, nous avons reçu cet appel hein, hier, avec toute la réflexion de la semaine, bien sûr, pour la commission doctrinale de saisir ces sujets. Alors, je ne peux pas encore, évidemment, dire beaucoup sur la manière, même si on sait qu'on va pouvoir s'appuyer sur des compétences, parce qu'il y a dans nos universités catholiques, des penseurs, des théologiens, des philosophes, spécialistes d'anthropologie, nous avons dans nos universités aussi des psychologues, etc. Donc on peut s'appuyer sur des compétences multiples pour travailler sur différents sujets.
Ça veut dire que, pardon, vous n'allez pas seulement rester à faire un travail entre évêques, si
non,
je vous comprends
non,
bien.
Non, d'autant que d'ailleurs une des résolutions, c'est aussi que les différentes commissions et conseils de la conférence s'adjoignent aussi d'autres membres du peuple de Dieu. Donc c'est pour la commission doctrinale, ça va être assez naturel de s'appuyer sur des théologiens ou d'autres experts. Voilà, oui, effectivement. Et là, demander en particulier pour ces sujets-là qu'on s'appuie sur les compétences. Voilà.
Et quels pourraient être ces sujets, justement, Seigneur?
Alors, il y en a plusieurs qui découlent des résolutions, enfin, des recommandations, pardon, de la CIAS. D'abord la morale sexuelle, dont le rapport dit que nous avons à essayer de mieux l'intégrer dans notre compréhension parce que peut-être que des personnalités immatures ont été perturbées par la manière dont on enseigne la morale sexuelle. Il faut que nous soyons beaucoup plus justes, beaucoup plus ajustés, beaucoup plus précis, beaucoup plus constructifs, une morale qui fait grandir et non pas une morale qui enferme les personnes. Donc voilà, il y a tout un enjeu là extrêmement vaste, ainsi que sur l'anthropologie, ça va un petit peu ensemble, il me semble. Et puis voilà, après il y a des questions sur le sacerdoce ministériel, quelle est sa vraie place, comment ne pas trop sacraliser le prêtre, mais le situer à sa juste place dans l'Église, et que les prêtres eux-mêmes se sentent heureux, à l'aise dans leur mission. Et bien sûr, ils ont étudié cela hein, au séminaire, mais il y a sûrement des points sur lesquels il faut que nous soyons plus précis. Et puis, la question, c'est qu'on constate que la parole de Dieu a souvent été instrumentalisée, dévoyée par à travers certaines expressions en particulier bibliques. Alors il s'agit de bien resituer ces expressions dans leur contexte et de les comprendre, d'aider à ne pas prêter le flanc à des détournements de
ne pas travestir la parole de Dieu si
oui, et puis peut-être si bien redécouvrir comment même pour des choses de la vie ordinaire, on se sert pas de la parole de Dieu pour faire passer un message qu'on a construit en soi-même, mais on reçoit la parole de Dieu on commence par l'habiter, par essayer d'en vivre, mais on n'est pas là pour, elle n'est pas là pour servir d'instrument de coercition
sur
les personnes, parce que c'est la parole de Dieu, donc on écrase. Non, on peut pas se servir de cette manière-là de la parole de Dieu. On doit la recevoir ensemble avec beaucoup d'humilité. Mmh. Enfin, c'est cette posture aussi qui est à travailler.
D'accord.
Voilà, et donc du point de vue doctrinal aussi.
Voilà, beaucoup de sujets.
Beaucoup de questions.
Monseigneur Laurent Camiat, de nombreux fidèles s'interrogent sur le discernement vocationnel, la formation, l'accompagnement des prêtres, mais aussi des évêques. Est-ce que ces questions vont être étudiées au sein des groupes de groupes de travail spécifiques? Enfin, nous le savons, puisque nous l'avons eu dans le rapport de la conférence des évêques de France. Quelles sont en fait les mesures qui pourraient être prises, justement, dans ces domaines d'accompagnement et de formation de discernement des prêtres?
Alors, pour ce qui est du ministère des prêtres, hein, dans leur ministère ordinaire, hein, pas forcément les prêtres qui sont en difficulté ou qui ont commis des abus, mais on sent bien qu'il y a ce besoin très important de mieux organiser l'accompagnement. Alors, le rapport Sauvé parle d'un entretien annuel pour faire le point, parce que effectivement, plus un prêtre se sent isolé, en difficulté, plus s'il porte en lui des pulsions ou plus il peut passer à l'acte ou en tout cas aller sur des chemins de dérive et voilà, se fourvoyer avec le temps.
Et ce sera un entretien avec qui alors?
Alors, c'est là qu'il faut. Ce sera un entretien pastoral, hein, sur un bilan sur sa vie pastorale, ce que nous faisons déjà. Moi, j'ai commencé déjà à recevoir de façon un peu plus régulière les prêtres chaque année. Avec le période du Covid, ça n'a pas forcément été très facilité, mais enfin, on a continué quand même. Et il faut continuer, mais il faut aussi dégager du temps, peut-être sur davantage les vicaires généraux et puis d'autres. Prêtres, peut-être aussi avec d'autres personnes, trouver aussi des personnes laïques qui jouent un rôle d'accompagnement pastoral sur tel ou tel domaine de leur vie pastorale. Voilà, nous avons à travailler là-dessus. Le principe du groupe de travail qui est constitué de personnes de laïcs, de religieux, religieuses ou de prêtres, de personnes du peuple de Dieu, c'est mené par des laïcs, va réfléchir à la bonne manière d'accompagner les prêtres.
Voilà. Et est-ce que justement les aspects psychologiques vont être davantage pris en compte dans l'évaluation d'un discernement ou dans l'accompagnement d'un
prêtre? Alors, effectivement, notamment pour les séminaristes, après aussi ça peut être le cas pour la question de la santé des prêtres et de leur accompagnement psychologique s'il y en a besoin, c'est évident qu'il faut qu'on soit beaucoup plus attentif à la santé aussi psychologique du clergé. Mais pour ce qui est des futurs prêtres, hein, la question du discernement que vous avez évoqué, la nouvelle ratio nationale prévoit systématiquement des évaluations psychologiques à l'entrée au séminaire et en cours de parcours. Voilà, c'est quelque chose qui se fait déjà d'ailleurs dans beaucoup de séminaires depuis quelques temps.
Donc ça va être généralisé.
Sera généralisé et voilà, demandé de manière obligatoire.
Est-ce qu'il y aura une place peut-être un peu plus grande accordée aux femmes justement dans la formation des séminaristes aussi?
Alors oui, on se rend compte que pour l'équilibre et la croissance des personnes, il est important de pas vivre que dans un milieu d'hommes. Bon, généralement les séminaristes aujourd'hui sont aussi en stage dans des paroisses, enfin ils rencontrent toutes sortes de personnes, mais d'avoir le regard féminin dans le discernement, dans l'accompagnement et donc au sein des équipes de formateurs dans les séminaires, ce sera quelque chose qui va être obligatoire et donc nous avons décidé cela aussi en assemblée. C'était déjà proposé au séminaire de Toulouse en particulier, et c'est déjà le cas. Il y a une femme et puis un laïc aussi, homme, qui est père de famille, qui est dans l'équipe des formateurs du séminaire.
Mais avec un rôle consultatif seulement ou est-ce que ça aussi, alors, ça va évoluer?
Alors voilà, nous avions demandé à ce que qu'il puisse avoir le droit de vote dans la vie donnée par le séminaire. Donc effectivement, maintenant, ce sera le cas, oui.
Une des préconisations soulevées par le rapport Sauvé concerne l'indemnisation des victimes. Monseigneur de Moulin-Beaufort a bien précisé qu'il pourrait s'agir d'une indemnisation abondée par un fonds qui viendrait de la vente de biens mobiliers et immobiliers. Mais outre ces questions pratico-pratiques, est-ce que, Monseigneur Laurent Camiade, n'y aurait pas un risque de confusion entre le cultuel et le profane? Et puis, est-ce qu'il y a aussi une question d'enjeu d'une telle mesure?
Oui, alors il y a des questions sur le plan juridique, la question du droit. Nous ne pouvons pas faire n'importe quoi de l'argent que les fidèles nous donnent. L'argent qui est donné, par exemple, pour le dîner de l'Église, qui est pour le traitement et les salaires des personnes dans la vie de l'Église, que ce soit les prêtres ou les laïcs, est une ressource qui est fléchée, hein, qui a une destination bien précise. Après, toutes les ressources de l'Église sont, que ce soit dans le passé ou dans le présent, sont le fruit de dons des fidèles. Hein. L'Église n'a pas de ressources propres, de revenus propres, même si parfois il y a certains biens qui peuvent rapporter un peu, c'est pas toujours le cas. Parfois ça coûte plus que ça ne rapporte. Mais voilà, donc la question effectivement de la manière d'abonder le fonds est une question complexe sur le plan juridique, mais voilà, prendront les moyens, nous trouverons, et quitte à demander certaines dérogations pour l'utilisation de la vente de biens, au pouvoir public sur la possibilité de les utiliser. Sachant que, la question de la réparation due aux victimes n'est pas complètement étrangère au culte dans l'esprit de l'Évangile. Je crois que les décisions que nous avons prises sont profondément évangéliques et je pense qu'on doit pouvoir justifier le fait que ça fait partie de la mission de l'Église que d'exercer la justice sur ce plan. Enfin, ça me paraît quand même cohérent, même si certains commissaires aux comptes se montrent très réticents sur cette perspective. Voilà, donc il faut qu'on arrive à clarifier du point de vue juridique. Le droit que nous avons, mais voilà, je pense qu'on y arrivera.
Merci beaucoup, Monseigneur Laurent Camiade. Il y aurait encore tant à dire sur ces préconisations et ces résolutions de la Conférence des évêques de France qui vient de se terminer à Lourdes. Merci en tout cas de nous avoir fait part des suites tant attendues du rapport de la Commission Sauvé. Il nous reste plus qu'à vous souhaiter un bon travail parce que la charge est lourde.
Oui, on a du travail, mais voilà, c'est important de le faire.
Merci beaucoup à vous, Monseigneur Laurent Camiade.
Merci.